Jean-Louis Gombeau est né en 1947. Il est éditorialiste économique quotidien sur Europe 1, du lundi au vendredi entre 7h55 et 7h59. Il est aussi éditorialiste économique au quotidien Nice Matin. Il a été professeur d'économie pendant de nombreuses années. Et il est, dans ses spécialités, il a un regard général d'abord sur l'économie dans son ensemble, de par sa fonction qui lui permet d'avoir un poste d'observation privilégié, mais il est aussi un spécialiste du marché et du commerce mondial. En 1998 et en 1999, deux années de suite, il a reçu le prix Dauphine, le prix qui est attribué au meilleur éditorialiste économique. Parmi les publications, il est co-auteur du rapport Cyclope, et également auteur de trois ouvrages sur les marchés des matières premières aux éditions Economica. Il a également écrit « La guerre du cacao, histoire secrète d'un embargo » en collaboration avec Corinne Montoux et Stephen Smith, et qui est paru aux éditions Kalman-Lévy en 1990. Il a écrit « Vive les riches » qui est paru chez Duno. Et enfin, « Le retour de la Grande Dépression » paru chez Economica en 1997. Voilà, Jean-Louis Gombeau, je vous laisse la parole maintenant pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat de 20 minutes pourra se poursuivre. Merci.
Mesdames, Messieurs, en entendant M. Gabriel Leroux me présenter à vous, vous pouvez comprendre que, vu la maigreur de mes qualités universitaires, à comparer à ceux des autres conférenciers qui m'ont précédé et ceux qui suivront, je sois étonné de me trouver ici ce soir, et vous-même peut-être vous êtes un peu surpris. Mais pour ce qui me concerne, j'ai accepté avec joie ce rendez-vous, tout simplement parce que cela me flatte qu'on ait pensé à moi. Mais soyons clairs, ici, je ne suis pas un chercheur, et ce soir, vous allez entendre des propos d'un journaliste sur le marché et sa mondialisation. Je préfère vous prévenir, pour que vous n'alliez pas à la sortie au bureau de réclamation, que je veux ce soir seulement vous faire part des questions qui se posent, en tous les cas que je me pose moi. Il n'y aura pas de thèse, il n'y aura pas de réponse. Pour moi, mon métier, ça consiste pas à dire aux gens quoi penser, mais plutôt comment penser. Or, pour penser, l'économiste a besoin, à mon avis, d'être à l'écoute des autres disciplines. Je ferai référence, donc, au cours de l'heure qui vient, à un certain nombre d'entre elles. Marx disait « L'économie est une science carrefour ». Eh bien, justement, je suis d'autant plus honoré d'être ici ce soir que je réponds à l'invitation de l'université, d'une université placée sous la responsabilité d'un philosophe, M. Yves Michaud. Or, comme économiste, je m'aperçois que la philosophie, à nous, économistes, nous manque. Du moins, on en aurait besoin pour mieux travailler les concepts que nous utilisons quotidiennement. Par exemple, ce concept même de marché qui tombe sous l'évidence, mais qui en fait n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Et c'est d'ailleurs tellement compliqué qu'on est parti pour une heure. Mesdames, Messieurs, y a-t-il une notion, effectivement, qui tombe plus sous le sens commun que celle de marché ? D'abord parce que le marché fait partie de notre vie quotidienne. Sans un sou, on n'est rien. Les grands titres de la presse, les grandes émissions de radio ou de télévision vous parlent des lois du marché, de la force du marché. On vous informera tous les jours sur le marché des capitaux, des marchés financiers, du marché de l'euro, du marché des fruits et légumes et bientôt du marché de la santé. Notre style de vie, notre univers, la façon dont nous nous projetons dans l'avenir sont liés à ce fameux marché. Par exemple, quelle formation suivre en fonction du marché du travail ? Comment préparer ma retraite au mieux en fonction des perspectives immobilières et des aléas de la bourse? Notre système institutionnel lui-même est plein de marchés. Le marché unique européen, la monnaie unique sont bien des créations politiques. Le budget de l'État est en déficit, l'État est endetté, il doit se refinancer et il doit le faire au prix du marché. Le marché est donc partout. Il nous est devenu tellement coutumier qu'il nous arrive d'entendre dans la conversation courante Le marché pense que, le marché dit que, le marché estime que. Cette chose, si c'est une chose, nous serait-elle devenue si familière pour que nous nous sentions en mesure de communiquer avec elle alors qu'elle est dépourvue de toute faculté humaine que l'on sache. Mais peut-être que ce n'est pas une chose. Mais si le marché, c'est un groupe d'hommes ou de femmes, d'où leur vient donc ce pouvoir ? À moins de penser que le marché, c'est nous tous dans notre activité économique. Ce genre de questions qui n'ont l'air de rien permettent, à mon avis, de préciser un certain nombre de points et de mettre en évidence nos fragilités d'analyse derrière nos facilités de vocabulaire. Regardez, en économie, le marché est la donnée dominante. Mais comment connaître cette réalité que tout le monde fréquente, que personne n'a jamais vue, que tout le monde ressent et qu'il est absolument impossible de mettre en laboratoire? Regardez maintenant un autre phénomène de masse, ce que l'on appelle l'opinion publique. On interroge le marché, on s'interroge sur l'opinion pour savoir ce que l'un et l'autre veulent et on veut s'y conformer. Mais de quoi disposons-nous exactement pour entrer en communication avec le marché et l'opinion? Notre société repose sur deux piliers invisibles qu'il nous faut absolument trouver. Il le faut parce qu'on nous commande bien, bel et bien de nous adapter au marché. Nous adapter. Mais soit le marché est de notre fait. Et alors, il n'y a pas à s'adapter à ce qui sort de nos cerveaux, à ce qui sort de notre volonté et à ce qui sort de nos mains. Soit le marché n'est pas de notre fait. Et alors, s'il a des prétentions de ce genre qui ne nous conviennent pas, chassons-le de nos vies. Il y a une troisième hypothèse, celle qui consiste à penser que le marché, somme toute, c'est comme la gravitation universelle, une force extérieure à nous. C'est ce que nous dit, par exemple, Alain Minc. Le marché, dit-il, cette nouvelle gravitation universelle. Et 4 siècles plus tard, on peut à partir de là faire écho à la fameuse remarque de Francis Bacon, on ne commande bien qu'aux forces auxquelles on obéit. De toutes ces choses dont nous parlons en général, comme s'il s'agissait d'évidence, les uns accuseront la dictature des marchés. Les autres mettront au contraire en valeur l'équilibre des marchés. Mais dans un cas, la dictature, qu'est-ce qu'on fait ? Dans l'autre, l'équilibre, mais de quoi se plaint-on ? Et dans les deux cas, mais qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien moi, je voudrais vous dire ce soir qu'à mon avis, il n'y a ni dictature, ni équilibre. Il y a nos propres contradictions et frustrations et nos propres angoisses. Regardez l'automobile. C'est une fabrication des hommes, mais on voit bien aujourd'hui qu'il faut s'adapter à la civilisation de l'automobile qui nous dépasse, avec derrière le marché de l'automobile, mais aussi le marché immobilier, le marché du foncier. On veut des voitures, mais on en a ras-le-bol de la bagnole. Mais vous voyez à travers ces petites remarques, parfois qui sont du niveau du café et du commerce, qui est normal puisqu'on parle de marché, que tout cela n'est pas si simple. Tous ces concepts que nous manions quotidiennement, cette fréquentation permanente mérite, à mon avis, un certain développement et des précisions. C'est pourquoi je ferai à propos du marché la même remarque que saint Augustin formulait sur le temps. Si l'on ne m'interroge pas sur le temps, je sais qui il est. Si on me le demande, je ne le sais plus. Eh bien, c'est vrai, on dit souvent « je suis effrayé par le temps qui passe si vite », mais qui a vu du temps passer devant ses yeux ? Tout comme personne n'a vu le marché devant ses yeux, et il pense savoir quand même ce que c'est quelque part. Quand j'étais gosse, je ne sais plus si ça se passe encore comme ça dans les cours de récréation, on se racontait des histoires de Toto, c'est-à-dire des histoires idiotes. Et il y en avait une que j'aimais bien, c'est un fils qui demande à son père, « Dis papa, c'est loin l'Amérique ? Tais-toi et nage. » Alors, dis papa, c'est quoi le marché ? Tais-toi et vends. Car, somme toute, cela se résume à peu près à cela. Engels, l'ami de Marx, disait volontiers « La preuve du pudding, c'est qu'on le mange. » Eh bien, la preuve du marché, c'est qu'on vend. Une fois que vous savez ça, vous savez, croyez-moi, vous savez l'essentiel. 1. Le marché existe. 2. Je vends, donc je suis. Je vous assure que cela suffit entièrement pour vivre. Vous l'aurez compris, les économistes peuvent en être réduits à ce genre de pirouette. Kenneth Boulding, économiste américain des années 50, qui cherchait à définir ce que c'était que l'économie devant ses étudiants, c'était parce qu'il était, il n'en pouvait plus, s'était résolu à se rabattre sur un raccourci. Il avait dit « Je ne saurais pas vous définir un tigre, mais quand j'en vois un, je le reconnais immédiatement. » Essayons quand même d'aller plus loin, et donc, même si on n'arrivera pas à définir notre tigre, c'est-à-dire notre marché, entrons dans cette grande question « Qu'est-ce que le marché ?» À cette question, je réponds comme mes collègues économistes, le marché, c'est une force. Oui, mais laquelle ? Il nous faut donc en déterminer la nature, du moins la préciser, pour en approcher la substance. Pour cela, je propose un peu d'histoire de l'économie de marché. Mais voilà, comme dans bien d'autres disciplines des sciences, même sciences humaines, on a bien du mal à savoir quand est-ce que les choses commencent. C'est vrai, quand est-ce que commence l'univers, quand est-ce que commence la vie, l'apparition de l'homme sur Terre, l'émergence de la démocratie, la naissance de la France, voire de l'Europe, eh bien le marché c'est pareil. Quand commence le marché exactement ? Ce que l'on sait, c'est que les hommes ont conscience de l'existence du marché depuis Mathusalem, j'allais dire, fort longtemps. L'épopée de Gilgamesh est un conte de Mésopotamie. Il est reconnu comme le plus ancien texte écrit de l'histoire, 4000 ans avant Jésus-Christ. Il est question d'un prince, Gilgamesh, et de son ami Enkidu, qui tous deux se mettent en quête d'aller abattre des cèdres dans une forêt lointaine et sacrée, sans doute l'actuel Liban. Gilgamesh est donc un prince, et Enkidu, son futur ami, quand commence le conte, est moitié bête et moitié homme. Et il vit parmi les animaux sauvages. L'histoire raconte que Gilgamesh, pour permettre à Enkidu de devenir un être humain et en faire ensuite son ami, son compagnon d'aventure, le présente à une prostituée à laquelle Enkidu s'accouple. Et ainsi, Enkidu s'humanise-t-il, il n'est plus une bête. C'est intéressant parce que le premier texte connu dans l'histoire de l'écriture dit bien que c'est une prostituée, c'est-à-dire une sexualité marchande qui permet à la demi-bête de devenir totalement homme. Pour l'auteur, il y a bien, en tous les cas, à l'époque où il écrit, moins 4000, un marché, en tous les cas des marchandises, et pour lui, ce marché, qu'il se trompe ou pas, c'est une autre question, a un effet civilisateur. Maintenant, pour les économistes. Pour les économistes, quand est-ce qu'il y a une preuve qu'il y a un marché ? La preuve du marché, pour l'économiste, c'est qu'il existe un prix et un contrat. C'est autour de 1700 avant Jésus-Christ qu'on voit des semblants de contrats. Des tables en Mésopotamie nous donnent des prix du vin et des prix du blé. Jean Bottero, le grand spécialiste de la Mésopotamie, nous dit d'ailleurs « Le vin vaut 250 fois le prix du blé. » Et à ma connaissance, il n'y a pas plus ancien. Mais maintenant, est-ce que l'existence du prix d'un échange dont la matérialité est prouvée par l'existence d'un document, un contrat, suffise à m'assurer qu'il y a un marché à cette époque-là ? Je réponds non. C'est le fait qu'il y ait eu échange de choses, même par l'intermédiaire d'un signe monétaire, ne s'assimile pas, pour l'économiste, à un vrai marché. Car cet échange peut être enrobé de cérémonies, de signes de pouvoir, de marques de dépendance. Pour qu'il y ait marché, il faut d'abord que la fréquence des transactions finisse par dépouiller ces mêmes transactions de toute norme sociale de prestige et d'apparat. Ça, c'est le premier point. Il faut aussi que la vente soit devenue un moyen matériel de vivre pour les acteurs économiques. Enfin, pour qu'il y ait marché, il faut que le prix de la chose objet de transaction marchande n'ait rien à voir avec les conditions dans lesquelles les producteurs ont produit cette chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'économie de marché place chacun d'entre nous dans une situation originale où son avenir dépend des autres, mais ne saurait en aucun cas se reposer sur l'espoir d'une prise en charge de son avenir par les autres. Voyons comment les choses se passent concrètement dans la vie du marché. Le marché qui se présente à moi, le marché que je convoite, le marché immédiat, convoitable immédiatement, c'est celui qu'occupe mon concurrent, celui qui l'approvisionne à sa façon. Soit je produis la même marchandise qui prétend se substituer à la sienne, par exemple je la produis moins cher, soit je propose une marchandise toute différente, meilleure qualité par exemple, avec de l'intention de conduire le consommateur vers moi. Il y a bien tentative d'éviction, et si la substitution s'opère, l'apport d'une offre supplémentaire, la mienne, enclenche la croissance, mais elle enclenche la croissance dans l'affrontement. Il y a bien entendu un prix d'équilibre au final, car la marchandise aura un prix, le prix de marché, mais derrière le prix d'équilibre, il y a un acteur déséquilibré par le plus performant, le gagneur, comme on dit aujourd'hui. Ce n'est pas pareil maintenant qu'avant, pour lui. Le prix de marché ne lui convient pas, il est affaibli, alors que d'autres convoitises se préparent, pendant les travaux, le marché continue. En ce sens, je dirais que le marché, c'est comme la guerre. Il n'est pas la guerre à proprement parler, mais quelque part, cela lui ressemble. Ici, à titre d'exemple, je voudrais citer un grand stratège militaire connu de tout le monde, Karl von Clausewitz, qui ainsi définit la guerre. Pour lui, la guerre n'est rien d'autre, dit-il, qu'un duel à vaste échelle. Dans l'économie, quel est le duel et son enjeu? Je suis face au concurrent et je me bats pour ma part de marché. Il y a moi d'un côté et tous les autres en face. Moi, je gêne tout le monde et tout le monde me dérange. C'est le combat de chacun qui fait la croissance économique, et Clausewitz poursuit. La guerre est un conflit de grands intérêts. Il ajoute, on peut la comparer au commerce, qui est aussi un conflit d'intérêts et d'activités humaines. Un point de vue que n'aurait sans doute pas rejeté Schumpeter, sans doute avec Keynes, le plus grand économiste du XXe siècle, qui évoque bien, parlant de l'économie de marché et de son dynamisme, la destruction créatrice. Une destruction créatrice, un processus où le nom du vainqueur n'est jamais, comme dans tout conflit, n'est jamais connu d'avance. Mais maintenant, après toutes ces horreurs, je vais vous dire encore quelque chose de plus terrifiant. Ne vous y trompez pas. Quand l'économie veut garantir à tous qu'il sera présent à l'appel demain, indépendamment de ce que l'on peut appeler l'efficacité de chacun, ce qui se rend compte d'ailleurs dans les sociétés connues antérieures à l'économie de marché, c'est au prix de lourdeurs redistributives imposées par des potentats, des coûts socialisés souvent ruineux pour tous, mis en place par une autorité tutélaire, qui impose ce choix en organisant la dilapidation des richesses pour éviter la constitution de forces économiques qui déséquilibreraient un statu quo social. Donc l'économie de marché est une économie de déséquilibre, l'économie antérieure au marché est une économie qui tente de maintenir l'équilibre malgré des productivités différentes. Cette société non marchande, c'est évidemment pas le marché, c'est même aux antipodes du marché, mais ce n'est pas la joie. Le marché n'a donc pas toujours existé, mais le paradis perdu, non marchand, pacifique, n'a jamais été une réalité. Ne troquons pas une illusion pour autant une illusion par une autre, et n'allons pas soutenir que l'économie de marché serait celle de l'équilibre sans tension. Cette économie-là n'existe pas plus aujourd'hui que la première n'a existé dans le passé. La réalité, c'est que l'homme n'a jamais connu l'économie non violente. La nôtre n'est pas plus pacifique que les précédentes. Mesdames, Messieurs, l'économie de marché n'a pas toujours existé partout, mais voilà certainement 2500 ans au moins, car les preuves formelles de son existence ne remontent pas plus loin, qu'elle fonctionne. Le monde grec et romain sont incontestablement marchands. Le Moyen-Âge l'était également. Le marché est donc une très, très vieille histoire. Mais cela dit, notre époque marchande offre d'étonnantes originalités dont je vais vous entretenir maintenant dans ma seconde partie. Au milieu du XIXe siècle, quand la révolution industrielle bat son plein à peu près partout, du moins dans le monde occidental, la part de la production mondiale qui fait l'objet d'un commerce mondial est à peu près de 1%, c'est-à-dire pratiquement rien. Les épices, les métaux précieux, un peu de textile, mais la masse reste dans les frontières de l'époque. Il est très rare d'acheter du blé étranger, des charrues qui ne sont pas françaises, etc. 1%, c'est pratiquement rien. En 1913, nous passons à 8%. En 1973, avant le choc pétrolier, on passe à 15%. Aujourd'hui, c'est 25%. Donc, quand je dis que le marché a toujours existé, du moins depuis plus de deux millénaires, je précise immédiatement, aujourd'hui, le marché existe plus que jamais, et ceci pour trois raisons. La première, c'est que les barrières au commerce et les obstacles placés devant le mouvement des capitaux ont quasiment tous disparu. Toute l'actualité économique des 50 dernières années, les négociations commerciales, GATT ou OMC, a été parcourue par des progrès constants dans cette matière-là. C'est au point que cette libéralisation du marché à l'échelle mondiale est aujourd'hui, en termes institutionnels évidemment, pratiquement achevée. La seconde raison qui permet de montrer, d'affirmer que le marché est plus vivant que jamais aujourd'hui, est liée au progrès technique, dont l'accélération et le caractère mondialisé impulsent une diffusion des bouleversements des conditions de marché comme on n'en a jamais connu. Tous les acteurs la vivent. De ce point de vue, l'émergence d'un phénomène comme Internet, par sa capacité à rassembler en un instant toutes les offres du globe, permet de transformer tous les écrans du monde en un vaste marché libre et ouvert à tout vent. Le monde entier sait en même temps que telle marchandise est proposée dans telle condition, notamment de prix, par tel ou tel offreur. Ce même progrès technique, doté d'Internet, donne évidemment à ce que l'on appelle la sanction traditionnelle du marché une immédiateté inconnue jusqu'à présent. C'est cela le grand changement actuel. Ce n'est pas l'existence de réseaux qui est un concept à la mode, car il n'y a jamais eu dans l'histoire marchande de marché sans réseau. Il n'y a pas de marché sans un partenaire, sans un concurrent, qui lui-même a un autre partenaire et un autre concurrent. Le réseau est lié au marché. Le changement n'est donc pas là. Il est dans l'immédiateté de la sanction. Le degré d'ouverture s'est donc élargi, premier point, et le temps de réaction s'est rétréci. S'ajoute à cela une troisième raison qui prouve la généralisation de l'économie de marché, c'est la monnaie. Aujourd'hui, toutes les marchandises du monde se vendent dans une monnaie, mais peut-être deux à la rigueur, elles se vendent dans le dollar. Toutes les marchandises sont donc comparables les unes aux autres et dans l'instant. C'est une condition d'unification mondiale du marché comme nous n'en avons jamais connu. Pour ces trois raisons, plus de barrières, plein de progrès techniques, une monnaie et le tout dans un seul monde, on peut dire qu'aujourd'hui, aucune entreprise ne peut prétendre que son débouché, ses ventes, sont en dehors du marché mondial, du moins indépendant de celui-ci, ou que ses approvisionnements le sont, ou que le taux d'intérêt auquel elle se finance l'est également. L'entreprise, l'activité isolée dans son coin de la planète, a pratiquement disparu, et c'est très récent. En fait, la nouveauté de notre temps, c'est que personne, et quand je dis personne, c'est non seulement le particulier, vous et moi, mais l'entreprise, mais aussi l'État, lui non plus ne peut pas se déclarer propriétaire d'un marché. Aucun marché n'appartient à qui que ce soit. Tout est convoitable potentiellement. Cette innovation a plusieurs conséquences économiques dont je ne retiens ici que ce qui m'apparaît comme essentiel et elles sont au nombre de deux. La première, c'est qu'avec ce marché quasiment partout, cette concurrence générale, le champ est ouvert pour ce que l'on peut légitimement appeler une guerre des prix. Cette contrainte et la brutalité avec laquelle elle s'exerce obligent les acteurs économiques à redoubler d'efficacité et les contraint à chasser les coûts superflus. Chacun d'entre nous s'en plaint en tant que salarié, mais tous nous en voulons en tant que consommateurs ou plutôt comme clients, car ce que l'on appelle le pouvoir des consommateurs relève plus de ce qu'il faudrait appeler la dictature du client. Cela signifie rationalisation des moyens et normalisation des offres. Et comme la baisse des prix rogne les marges des entreprises, les entreprises sont mises dans l'obligation de compenser la baisse du bénéfice unitaire en faisant du volume, toujours plus du volume, ce qui pousse à la standardisation et à la banalisation des productions. La seconde conséquence de l'élargissement du marché à l'échelle mondiale, c'est une généralisation de la concurrence dans tous les domaines, même en dehors de l'économie stricto sensu. Si l'investisseur et le consommateur ont la liberté totale de choix pour l'un de s'établir, choisir la zone la plus efficace, en tous les cas appropriée à sa stratégie, pour l'autre d'acheter où bon lui semble, la notion même de concurrence s'élargit. Les offreurs traditionnels s'affrontent, mais aussi les pays. Les États eux-mêmes, avec leurs systèmes sociaux, la confiance qu'ils inspirent selon le niveau de leur déficit public, la fiscalité, les réseaux d'infrastructures qui sont comparés et sélectionnés. Ceci est très important. Tout à l'heure, je l'ai dit, dans le marché, tout le monde ne peut pas être vainqueur en même temps. On peut dire qu'à long terme, tout le monde est gagnant, car la croissance bénéficie à tous avec l'élévation générale du niveau de vie, mais à court terme, je ne vois pas comment on pourrait dire que c'est le cas. Comme ce n'est pas le cas, et qu'il n'y a pas que le marché, s'il y a des gagneurs, c'est qu'il y a des perdants. Le jeu de l'histoire longue est peut-être à somme positive, mais le bilan de l'histoire à l'échelle d'une vie humaine est, lui, sujet à controverse. Il est peuplé d'exclus. C'est d'ailleurs pourquoi nous assistons dans nos sociétés marchandes à une double redistribution. Celle qu'effectuent les mécanismes classiques du marché, qui via le prix de marché redistribue les ressources, mais par derrière, l'État tente de compenser les pertes des uns par prélèvement sur les gains des autres, indemnisation, compensation, fiscalité, vous connaissez tout ça. Il ne redistribue pas la donne, il permet seulement une seconde pioche aux perdants, sachant que les cartes maîtresses ont déjà été jouées. Ce système, rodé depuis des décennies et des décennies, se trouve aujourd'hui, avec ce que je viens de dire, confronté au problème de la mondialisation qui accroît les pressions concurrentielles avec un double effet. D'abord, elle dope la compétition et l'affrontement, la croissance, mais en même temps, elle élargit les zones d'activité soumises aux règles du marché et donc les risques d'augmenter les rangs des perdants. Soit on les laisse les exclus face à eux-mêmes, soit on augmente la fiscalité pour redistribuer, mais alors on décourage les investisseurs potentiels au détriment de l'activité. La mondialisation, donc, nous met devant un problème nouveau. Elle nous oblige à un pilotage complexe avec des recherches d'équilibre très difficiles à trouver. Ce qui fait que, pour moi, si la civilisation du marché est une très vieille histoire, sa généralisation aujourd'hui sur l'ensemble de la planète, touchant à la quasi-totalité des activités humaines, donne à notre époque une originalité et la met devant des problèmes qu'elle n'a jamais eu à résoudre jusqu'à présent, du moins dans cette dimension. Les problèmes sont tellement compliqués qu'on peut se demander, est-ce que ça ne vaudrait quand même pas le coup d'arrêter tout ça ? Ce qui me semble complètement impossible, comme le prouve l'histoire économique. Nous sommes en Angleterre en 1848. Déjà dans l'Angleterre de 1848, les industriels anglais, sous la conduite d'un chef d'entreprise de textile, revendiquent pour le royaume l'ouverture du marché du blé, jusqu'alors protégé. Leur argument avait été résumé par leur leader, Robert Cobden, qui dit « Nous ne demandons pas le libre commerce du blé dans le but d'obtenir cette denrée à bas prix. Nous le demandons pour avoir le blé au prix naturel du marché universel. » Pour Cobden, donc, et c'est le même problème aujourd'hui, le problème est de ne pas être désavantagé par des prix élevés du blé répercutés sur le prix du pain que mangent ces ouvriers anglais, ce qui affecte le niveau des salaires et donc la compétitivité du textile anglais. Le textile anglais est en concurrence, donc il faut que le pain anglais soit en concurrence. Une fois que tel ou tel marché est ouvert, ceux qui sont mis en concurrence demandent l'ouverture pour tout le monde afin de pouvoir choisir et de se battre à armes égales. Donc, il faut ouvrir ailleurs. Une porte doit être ouverte ou fermée, Alfred de Musset nous l'avait déjà dit. Elle ne peut certainement pas être entrouverte. Si elle l'est, c'est une position intermédiaire en attendant plus d'ouverture. Rappelez-vous, le marché n'admet pas de circonstances atténuantes quand il délivre sa sanction. Cobden ne peut pas dire « Faites-moi une faveur, monsieur le prix de marché, le pain de mes ouvriers est plus cher que le vôtre. » Il ne peut pas le faire. C'est ce processus-là qui est engagé depuis un siècle, qui s'est accéléré ces 50 dernières années avec toutes les grandes négociations commerciales multilatérales dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Nous vivons actuellement la dernière ligne droite de cette longue histoire marchande. Si un marché s'ouvre, l'autre doit en faire autant. Je ne peux pas être industriel dont la production automobile est soumise aux règles du marché mondial sans exiger que mon banquier qui facture le crédit le soit aussi afin de bénéficier, moi, industriel d'automobile, qui vend mes automobiles sur le marché mondial, du meilleur prix. Et je ne peux pas être un banquier placé dans cette situation sans que le téléphone par lequel transitent mes transactions ne le soit pas à son tour ouvert. Et je ne peux pas être opérateur de télécom placé devant le marché mondial si le courrier que j'envoie n'est pas soumis lui aussi à la concurrence au cas où mes concurrents, eux, bénéficieraient d'une telle possibilité. Qui dit ouverture dit plus d'ouverture, et qui dit plus d'ouverture dit encore plus d'ouverture. Pour cette raison, ne croyez pas, en tout cas ce n'est pas mon point de vue, que les avancées du marché mondial seraient le produit d'une espèce de deus ex machina, le résultat d'une conspiration mondiale menée par le FMI, le Forum de Davos, l'OMC, l'OCDE ou toute autre organisation de ce genre. Le complot mondial pro-marché contre les peuples n'existe pas. Je préfère plutôt, pour me faire comprendre, reprendre la fameuse formule de Castoriadis, « Tout conspire à aller dans la même direction. » Tout conspire. Mais alors, si rien n'arrête le marché, qui est en mesure d'arrêter l'orateur, 7h09 ? Qui est en mesure de contrôler le marché ? C'est une très vieille question que je souhaite aborder maintenant pour finir, en prenant encore une fois l'histoire économique comme référence. Nous sommes aux alentours de 1675. Colbert est saisi de demandes contradictoires et ne sait plus très bien quoi faire. Des marchands et vignerons bordelais vendent l'essentiel de leur vin aux Anglais. qui, eux, vendent leur laine et leurs draps en France. Il se trouve que dans la région de Limoges, il y a du mouton, dont les propriétaires vendent leur laine aux drapiers de Rouen. Limoges ne veut pas que la laine anglaise entre dans leur royaume. À Rouen, ville où les drapiers sont bien contents de trouver de la laine anglaise moins chère que celle du Limousin, ils refusent les draps anglais. Mais Bordeaux exige de pouvoir être en mesure de vendre le vin aux Anglais, ce qui suppose évidemment que Rouen et Limoges laissent entrer les produits du royaume d'outre-Manche chez eux. Comment résoudre ce problème ? Impossible. Colbert, pour s'en sortir, essaie de mettre en place des tarifs douaniers modulés selon les types de marchandises pour tenter de sauvegarder, concilier les intérêts de tout le monde. Il va réguler, mais on voit bien qu'à terme, la seule façon de sortir de ce genre de dilemme, c'est de laisser le marché faire le tri et que chacun cherche à trouver son créneau là où il a le plus de chances possible de vendre. De fait, la solution Colbert est impraticable avec la multiplication des offres et l'extension de leur diversité ou l'éventail de plus en plus large de l'origine. Il y avait 100 marchandises, il y en a 2000 milliards. Comment mettre un tarif douanier à chacune pour protéger chaque producteur, etc. Le respect, le fait que chacun se reconnaisse plus ou moins dans les actes de la puissance publique, pourquoi cette feuille est là, je n'en sais rien. Donc je pose à une autre. Alors, en plus, un phénomène important, c'est qu'aujourd'hui, l'État n'est plus reconnu comme la puissance publique légitime dans la régulation économique. Donc, ce que peut décider Colbert était peut-être contesté, mais aujourd'hui, il serait plus que contesté et serait rejeté. Dans le marché classique, donc, classique, traditionnel, il y avait du marché, c'est l'État qui avait ce rôle d'arbitre. Dans le marché mondialisé, c'est la confiance qui va maintenant faire la différence. Et un peu d'histoire nous permettra de comprendre le processus. Première étape d'où tout va partir. Autour du VIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs, qui ont tout inventé, paraît-il, inventent la monnaie. Ils créent à travers cela une garantie de l'État qui sécurise les échanges commerciaux. C'est l'État qui permet aux marchands de travailler avec confiance et donc cela va doper tout le commerce méditerranéen. Deuxième étape fondamentale, il faut attendre le XIe, XIIe siècle pour que les marchands, les Vénitiens et les Génois, créent entre eux ce qui revient à être leur propre monnaie, c'est-à-dire la lettre d'échange. Les marchands tissent entre eux suffisamment de confiance pour se faire crédit. Il y a donc déjà avec la lettre de change une monnaie parallèle des marchands face à la monnaie de l'État. Ensuite, troisième étape cruciale, il faut arriver à 1971, encore un millénaire ou presque. 1971, à cette date, la monnaie du monde, le dollar américain, est décroché de l'or. C'est une révolution marchande sans précédent, d'une portée absolument gigantesque dans l'histoire. La monnaie qui facture la quasi-totalité des échanges internationaux ne repose plus sur une quelconque garantie publique, mais totalement sur la confiance que les partenaires marchands se font entre eux et sur une confiance placée dans un État qui lui-même est mis en position de ne rien garantir du tout. Quatrième étape, l'apparition de l'euro. Une monnaie de pure confiance, qui ne s'embarrasse même plus de l'alibi d'une garantie d'État apparente comme le dollar. Car le dollar reste la monnaie des États-Unis, alors que l'euro n'est même pas la monnaie de l'Europe, puisque l'Europe, en tant qu'État, n'existe pas. Donc avec la mondialisation, le dépouillement progressif des pouvoirs de l'État est une donnée absolument patente, claire et nette. La confiance entre les acteurs de marché a pris la place de l'autorité publique. C'est elle, cette confiance, qui devient la base même de la stabilité de la mondialisation des échanges. Or, ce critère central, la confiance, à la place de l'État, cette pierre angulaire s'installe alors que le monde abat les frontières, ce qui implique que tous les marchés sont a priori convoitables par tous et de partout. C'est une donnée absolument fondamentale dans l'histoire de nos sociétés marchandes. Confiance relative toujours mise en doute vis-à-vis du partenaire. Méfiance a priori systématique et absolue vis-à-vis du concurrent. Nous sommes donc entrés dans un monde à la recherche de confiance au milieu de risques ouverts et où les lieux protégés se réduisent. Or, plus il y a d'ouverture, plus il y a de concurrence, plus il y a de marchés convoitables, donc de risques potentiels, tout cela suscite un besoin croissant de confiance alors que l'État est moins que jamais en mesure d'apporter sa garantie. La preuve, d'ailleurs, en est, et je vais finir, dans ce foisonnement de sociétés spécialisées dans la notation. Elles notent non seulement les entreprises, mais aussi les régions et même les États, afin que tout acheteur, tout acteur économique sache ou croit savoir au moins où il met les pieds. Paul Valéry l'avait bien vu, toute la structure sociale est maintenant fondée sur la confiance ou la croyance. 75 ans plus tard, c'est totalement vérifié. Aujourd'hui, celui qui ne gagne pas la confiance du marché ne gagne rien dans le marché. Il n'y a pas d'autre recours pour lui. Alors, je suis un peu long. J'en viens à ma conclusion. Mesdames, Messieurs, j'arrive donc enfin à ma conclusion. Pour Clausewitz, la rivalité humaine apparaît en même temps que l'homme lui-même. Les causes de la guerre, pour lui, se trouvent ici. Pour les économistes, au contraire, la rivalité humaine est à la base du recherche du profit et on lit cela dès le départ chez Adam Smith. On peut de ce constat dégager une alternative. Pour Smith, Adam Smith, le père de l'économie, cette rivalité se résout via une main invisible dans un équilibre économique. Mais je peux soutenir aussi, et c'est ce que faisait Hobbes un siècle auparavant, que les hommes, laissés dans ce qu'il appelait l'état de nature, compte tenu de cette rivalité, finiraient par s'entre-dévorer. Il leur fallait donc un état fort, voire dictatorial, accepté par eux pour leur sauvegarde afin de survivre. En gros, à partir d'un même constat, on aboutit soit à la main invisible, soit à la main de fer. Je ne trancherai pas parce que je ne sais pas et je terminerai par une question. À qui peut-on faire confiance aujourd'hui? Le marché spontané ou la régulation? Et si ce n'est ni l'un ni l'autre, quel est l'équilibre idéal? Je viens de le dire, je n'en sais rien. À ma connaissance, je pense que personne ne le sait. La situation à laquelle nous sommes confrontés est beaucoup trop récente pour connaître le chemin. Et pourtant, il faut aller vite. Pour Clausewitz, cette rivalité intrinsèque entre les hommes est la cause de la guerre. À cause de cela, dit-il, le combat est inéluctable. Il fait d'ailleurs, à ce propos et pour se faire comprendre, une référence directe au commerce. La décision par les armes représente pour toute opération de guerre grande et petite ce que le paiement en espèces représente dans les transactions financières. Si éloignées que soient ces relations, si rares que puissent être les règlements, ils ne sauraient faire entièrement défaut. Autrement dit, à un moment ou à un autre, il faut régler les comptes. Mais chez Clausewitz, ce règlement des comptes est compris comme un acte social et politique. Il insiste dessus pendant des pages entières pour souligner « la guerre est le moyen d'une intention politique ». C'est elle la politique qui est la fin. Et il a cette phrase fameuse, la guerre est simplement la politique suivie par d'autres moyens. Il poursuit, aucune proposition majeure à propos de la guerre ne peut être construite dans l'ignorance des facteurs politiques. Autrement dit, Clausewitz subordonne totalement la guerre à la politique. Or aujourd'hui, tout se passe comme si le marché, dont j'ai dit qu'il me rappelait à la lumière de Clausewitz bien des aspects de la guerre, avait pour conséquence de subordonner la politique. Si la guerre, c'est la politique suivie par d'autres moyens, le marché est-il le résultat de la politique sans moyens? Si c'est ça, c'est une étape que je qualifierais de fondamentale dans l'histoire des sociétés humaines et qui nous oblige à revoir notre conception de la politique et de la démocratie. Je vous remercie. En m'excusant, j'ai été un peu long, mal tenu.
Monsieur, donc, et après vous, madame.
C'était très, très bien. Mais je voulais revenir sur cette fameuse analogie guerre-concurrence économique. Parce que j'ai un petit peu tourné autour de ça, moi aussi. Et je crois avoir mesuré les difficultés de cette analogie et les risques que ça implique. Et je pense qu'elle est fausse, cette analogie. On ne peut pas utiliser Clausewitz. On ne peut pas utiliser Clausewitz en économie. Et c'est vrai que la question du politique et de l'économique se pose là. Alors, Marx a dit, l'économie devient politique, toute économie est politique au sens où c'est l'économie qui fait le et la politique, hein, et qu'effectivement le monde actuel est un monde de la disparition du politique, que le monde actuel est un monde de la disparition du politique, de l'élément du politique. Nous avons entendu ici Jean-Pierre Lefebvre qui déplorait la chose et qui essayait de remplir le trou du politique par le petit grain de sable, le fameux petit grain de sable du syndicalisme, sans doute, qui est susceptible de bloquer la machine capitaliste, ce qui, à mon avis, est une illusion absolument gigantesque qui peut réjouir les syndicalistes retraités,
vous
justement.
Posez votre question, bon, madame, s'il vous plaît.
Et donc, je vous demandais si... s'il ne faut pas renoncer à cette affaire, et quand effectivement vous faites succéder bizarrement Hobbes, qui est antérieur à Adam Smith, est-ce qu'il ne faut pas rétablir l'histoire, c'est-à-dire c'est Hobbes d'abord qui veut un pouvoir absolu parce qu'il pense qu'il n'y a de pouvoir qu'absolu, qui permet à des États...
Oui, je pense qu'on a compris le sens de la question...
Non, elle n'a pas été posée, mais...
Posez-la clairement, s'il vous plaît, parce que je pense qu'il y a beaucoup
Mais pour ce qui est de Hobbes et Smith, j'ai bien dit que c'était un siècle avant, donc il n'y a pas de problème.
Oui, non, mais...
Les fiches sont correctes.
D'un point de vue... Non, mais d'un point de vue logique, tout simplement. C'est-à-dire... disparition du politique, voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. L'économie fait disparaître le politique. Alors, c'est là-dedans qu'on est maintenant, et on n'est plus dans la guerre.
Bon. Est-ce que vous avez quelque chose à...
Non, mais c'est une référence qui n'a pas de prétention théorique. C'est simplement une référence à un auteur. En lisant cet auteur récemment, lorsqu'il parle de duel, je trouve que, bien entendu, il y a tout le. Je n'ai pas cité la phrase de Clausewitz où il dit qu'il parle de sang inéluctable dans la guerre. Il parle bien de sang et de mort. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas pousser. Mais l'idée qu'il s'agit d'un duel, je la retiens. D'un duel de moi contre tout le monde, ou de moi et de mes partenaires, bien entendu, pour... D'ailleurs, c'est une expression, c'est peut-être une déformation journalistique, d'ailleurs, je vous avais prévenu là aussi dès le départ, on parle bien de guerre des prix, on vient de bataille de parts de marché. Ce sont des métaphores qui sont guerrières et qui ne sont peut-être pas totalement exactes, mais sur un plan purement théorique, je veux bien le concéder parce que de la théorie n'est pas mon problème, mais qui ont une part de vérité, de mon point de vue. Et donc, à moins qu'on me démontre que la concurrence ne se fait pas dans l'affrontement, surtout à notre époque, dans un peut-être c'est peut-être mieux que guerre, je pense que cette image, encore une fois, cette référence, me paraît adéquate à la situation que nous vivons aujourd'hui, à l'affrontement que se livrent des hommes pour des parts de marché, parce que c'est la condition de leur survie. Mais j'ai expliqué également que c'était un aspect de la croissance économique. Il y a les deux aspects. C'est un aspect de la croissance. Je dirais que la croissance se fait dans l'affrontement, plus que je crois que dans l'équilibre général où tout le monde se retrouve en même temps heureux. Ça ne me paraît pas correspondre à la réalité que j'analyse et que vivent les gens.
Une question là, monsieur.
La création de l'Europe s'est faite au début, pour qu'il n'y ait plus de guerre entre la France et l'Allemagne, par la communauté charbon-acier. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait intérêt à créer une politique mondiale de façon à ce que, précisément, éviter les intérêts nationaux particuliers, et d'autre part, permettre de redistribuer à l'échelon mondial et non pas à l'échelon national. Parce que si on redistribue à l'échelon national, les fiscalités sont évidemment diverses. Alors c'est simplement ma question. Est-ce que ce serait une solution si on si ce n'est pas une utopie de désirer cela.
Bon, vous pointez bien que la question que vous posez est tellement large et ambitieuse que j'hésite presque à donner mon avis sur quelque chose d'aussi compliqué. Si on reprend l'idée que donc, chassons le mot de guerre, reprenons le mot d'affrontement, dans l'État national, il y a une autorité qui arrive quelque part à réguler ces affrontements. Elle est reconnue, c'est par la dictature ou par la démocratie, mais elle est reconnue comme telle. Il y a existé dans l'histoire des autorités qui ont, supranationales qui ont tenté de réguler également. Un truc tout bête, puisque nous sommes en plein 500e anniversaire à la découverte du Brésil, mais le pape Alexandre VII, s'il y a un spécialiste ici de Hobbes ou d'Alexandre VII, je ne sais pas comment je vais faire, mais je crois que c'est bien ça. Alexandre VII, 1494, régule la part qui appartient à l'Espagne et ce qui appartient au Portugal. Et donc, il essaie ainsi, mais parce que c'est une autorité qui est reconnue d'évidence par ces gens à l'époque qui ont cette référence religieuse. Évidemment, ça se fait sur le dos de pauvres gens qui ne sont pas du tout dans la combine, si je puis dire. Mais en tout cas, à l'époque, il y a cette autorité supranationale qui dit « ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi, et vous ne vous battez pas sur ces deux terrains ». Aujourd'hui, il y a un problème, c'est ce que j'ai voulu surtout lier dans mon exposé, il y a un vrai problème, c'est que tout le monde souhaite que les marchés s'ouvrent, pour des raisons que tout le monde souhaite avoir disposé des marchandises de meilleure qualité, dans des délais de livraison rapides, à de bons prix. Et ceci suppose la concurrence. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Tout le monde le souhaite et tout le monde le veut. Tout le monde voit bien que ceci se fait aussi dans l'affrontement et dans des affrontements parfois violents où des gens perdent dans cette histoire, les exclus, les chômeurs, tous ceux qui sont mis sur le bas de la route et qui n'arrivent pas à s'accrocher au wagon alors que le train des autres passe devant. Ça nous met devant un véritable problème. Car d'un côté, on n'a plus un État national qui est capable de réguler, puisque ça vient de partout, et ça vient d'en dehors de sa juridiction. Il a perdu le pouvoir monétaire, il a perdu le contrôle des frontières en matière commerciale. Il n'a plus l'État national qu'un droit de regard fiscal. En fait, la seule autorité vraie, importante, publique, c'est le taux de l'impôt. Le reste lui échappe complètement, et même le taux de l'impôt commence à lui échapper, car les investisseurs disent « si ton impôt est trop fort, je ne viens pas chez toi créer des emplois ». Donc il est même là-dessus, il est sous tutelle. Donc, il y a besoin, donc nous sommes devant un truc ouvert, et on voit bien qu'on est devant, avec la mondialisation, devant un monde qui disparaît. On veut, et j'en viens à votre question, hier j'entendais le président Giscard d'Estaing dire exactement ce que vous dites, en disant « tout compte fait, il faudrait en venir à une espèce de parlement mondial ». Le problème, il est là. Le fait que nous sommes là dans le domaine de représentation politique, où le problème est de savoir si les gens se reconnaissent là-dedans. Ou, par exemple, lorsque, ne parlons pas de Parlement, mais lorsque l'OMC prend une décision en disant « toi, tu n'as pas respecté les règles, mais celui qui est au fin fond, qui vit, par exemple, prenons l'acier, qui vit au fin fond de la France et qui produit son acier, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ?» qui prétendent me réguler le marché de l'acier alors que c'est ma vie personnelle, mais de quelle autorité, qui leur a donné leur pouvoir, des fonctionnaires. Donc les gens ne se reconnaissent pas là-dedans. Et si vous ne vous reconnaissez pas, ou bien si vous n'avez pas les moyens d'imposer votre connaissance, style Hobbes par exemple, ou style la dictature, comment voulez-vous gérer votre affaire dans un relatif consensus ? Donc on est, je crois, et si on ne veut pas le voir, à mon avis, on va vers de graves désillusions. On est devant une situation complètement nouvelle qui n'a jamais existé depuis l'histoire de l'humanité où, justement, c'est une banalité, je termine là par ça parce que c'est une banalité de le dire, où les choses vont plus vite que nos raisonnements et que nos pensées. Ça va beaucoup, les choses, quelque part, nous échappent. Et il y a pourtant besoin, indépendamment, peu importe, économie, politique, qu'est-ce qui vient, la poule ou l'œuf, c'est pas ça la question. Le problème est de savoir comment on va pouvoir faire que tous les participants à cet immense marché mondial ne se sentent pas exclus du truc pour pouvoir disons, y trouver un avantage qui va leur revenir, qu'ils estiment juste. Eh bien, ce sont des questions qui, à mon avis, enfin, d'après ce que je peux voir, je ne vois pas le chercheur qui m'a donné la réponse. Donc, je ne vais pas la donner moi-même.
Une question là.
Oui, c'est moi. Bonsoir, monsieur. Une remarque et une question. D'abord, la remarque, c'est par rapport à ce que disait madame. Avant Hobbes, il y a eu les Templiers. Les Templiers, ils ont été les premiers à inventer les lettres de change. Je crois que je ne sais plus à quelle époque c'était par rapport aux Vénitiens. Là, ma question, elle est très simple. Le marché existe, et grâce à quoi? Grâce à qui? Grâce au développement social. Alors, ma question, elle est, dans le futur, est-ce que le marché prévoit de conserver le social ou est-ce qu'il prévoit de concurrencer le social, d'instaurer la concurrence dans le social? Qu'est-ce que vous pouvez me répondre? Merci, monsieur.
C'est moi. Le marché, c'est quelque chose qui, je dirais, ne s'intéresse pas directement au social. Le marché s'occupe de ses affaires, c'est-à-dire du marché. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, une espèce de, j'essaie de le dire tout à l'heure, une espèce de rouleau compresseur antisocial du marché. Mais il y a, malgré tout, et j'ai dit que sur l'histoire longue, bien entendu, sur l'histoire longue, mais que personne n'est arrivé à nous donner la distance de l'histoire longue. Mais sur l'histoire longue, la croissance économique par tête est patente. Sur l'histoire d'une vie, c'est-à-dire celle qui nous intéresse tous, vous et moi, le problème du bilan, et c'est là où intervient le social, est plus compliqué. Donc, le marché ne s'occupe pas du social. Le marché se développe, fait par les mécanismes du marché la croissance, répartit les ressources en fonction des lois du marché, mais pas en fonction du social. Bon. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a un terrain que les hommes, et ça, c'est le terrain de la politique, doivent occuper, comment gérer le social dans une concurrence ouverte du marché. Question, à mon avis, absolument ouverte, qui n'a pas de réponse pour le moment, de mon point de vue. D'un autre côté, le marché s'intéresse au social, car le social est un marché. Vous prenez, par exemple, la santé, 600 milliards de francs en France, 10% du PNB, c'est un marché. Tout est un marché, dans la mesure où vous avez une demande solvable. Donc aujourd'hui, ce marché, le social, la santé, est en dehors, est placé en dehors pour une bonne part, quoique on sait bien que 20% à peu près des dépenses santé sont des dépenses qui passent d'une manière indirecte par le marché, parce que tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale, etc. Mais fondamentalement, le marché peut s'intéresser au social si effectivement le social est aussi une demande solvable. Et le problème pour celui qui gère aujourd'hui le social, l'État, il gère le social, bon, ou le fait gérer, enfin peu importe, c'est une sorte de, ça fait partie de plutôt de la dépense publique, peu importe les mécanismes des partenaires sociaux qui gèrent ou pas. Le problème, il est le suivant, c'est que nous, comme dans une situation où l'autorité publique est contestée, chacun sait combien il verse à la caisse commune, mais personne ne sait combien il reçoit de la caisse commune. Nous sommes dans une situation qui est assez inédite de ce point de vue. On n'a jamais aimé payer ses impôts, on n'a jamais aimé payer ses cotisations sociales. Mais rarement dans l'histoire sociale de notre pays, en tout cas, l'idée selon laquelle j'en ai marre de payer pour tout le monde, rarement ce sentiment a été aussi aigu et aussi puissant dans la société française. C'est l'idée que, en fait, dans cette histoire, je suis perdant et donc j'en ai assez de payer. Donc l'idée qu'un certain nombre de personnes, et ça c'est un problème de corps social, est-ce que les gens veulent accepter de payer dans une caisse commune? Cette idée de corps social, est-ce que je vais continuer à payer pour quelque chose qui ne me rapporte rien et qui ne sert qu'à entretenir des gens qui sont toujours malades ou des gens qui sont en dehors de mon système, qui sont des exclus, qui sont, etc. Donc on a devant un problème, c'est que le problème de la division de cette masse, de l'ensemble de ces dépenses, est aujourd'hui posée avec des gens qui disent « mais moi, je vais soigner, et c'est peut-être vrai d'ailleurs, avec beaucoup plus d'efficacité que ne le fait la caisse publique, la caisse générale ». Donc, là aussi, je trouve qu'on est devant, et là, sur ce plan-là, nous avons un problème de réponse, hein, et devant lesquels j'estime, devant l'ampleur du débat, nous sommes démunis avec l'idée, bon, la dépense sociale du dépense publique doit assurer un minimum à tout le monde, et le reste doit être du domaine du marché. Mais qu'est-ce que c'est que la santé minimum? Personne ne peut définir ce que c'est que la santé minimum. peut toujours vivre avec une jambe en moins, donc on peut vivre quelque chose en moins. Enfin, personne ne sait ce que c'est que la santé minimum. Donc une santé minimum. Donc là aussi, pour que tout le monde accepte la notion de santé minimum, il faut qu'il y ait aussi un consensus. Ouais, d'accord, bon, tout ça, ça fait partie du social général. Le reste, c'est du privé. Donc ce genre de division suppose une espèce de consensus, de conviction, que les gens soient d'accord avec ça. Là aussi, votre question montre que nous sommes devant, pour des raisons politiques, économiques, financières, nous sommes devant une controverse devant laquelle chacun ne sait pas très bien comment se positionner. Mais c'est clair que le système tel qu'il est aujourd'hui, avec tous les mécanismes qui le financent et la manière dont il soigne, etc., puisque j'ai pris cet exemple de la santé, ne peut pas durer comme ça. Il ne peut pas durer comme ça. Mais l'alternative, ça...
Monsieur, une question.
Oui, ici.
Oh.
Face à vous.
Allez-y.
Le marché, c'est un drôle de truc. Hein.
Oui.
Cela étant, vous avez surtout...
C'est bien résumé.
Vous avez surtout parlé du marché des producteurs. Oui. Le marché, c'est les producteurs et puis les consommateurs. Des boîtes comme... ici.
Oui, je vous vois.
Des boîtes comme Microsoft... elles ont eu face à elles la voix du consommateur, à savoir l'État américain. IKEA, il a fait une charte de bonne gouvernance, ou je ne sais pas comment on dit. Nike a fait la même chose. Il y a aussi le marché des consommateurs.
C'est le même, je dirais que c'est même que ça, le marché. C'est-à-dire que c'est le marché n'est que... Le consommateur, c'est un petit peu... Ça fait un peu nous, ça, le consommateur. Donc, c'est beaucoup moins. Le marché, c'est la manière, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Qu'est-ce que le premier marché? C'est le marché convoitable qu'occupe le concurrent. Donc, c'est quelqu'un qui satisfait un besoin, qui apporte une production. Et le marché... on ne crée pas un marché, ça n'existe pas, ça. On ne crée pas, on prend un marché. On crée un marché, c'est-à-dire on crée une nouvelle manière de satisfaire le marché. Donc ça, on le crée. Mais on ne crée pas un marché. Le type qui invente le train, il ne crée pas le marché du transport. Il chasse la diligence et il prend le train. Alors, et le type qui fait l'avion, il ne crée pas le transport. Il chasse le type qui fait le train. Ou du moins, il lui en prend un petit bout. Donc, et c'est ça qui fait, et c'est ça qui fait le progrès technique, la croissance économique dans cet affrontement fait d'éviction. Donc, quelque part, oui, le marché, vous avez raison. Ça commence par le consommateur pris au sens large, l'industriel qui achète, le type qui achète ses pâtes, le type qui achète son investissement, etc. Et le problème du marché, c'est comment il va venir vers moi plutôt que d'aller vers lui. Et comment je vais lui proposer une façon plus efficace, moins chère, meilleure qualité, mieux présentée, enfin peu importe le système, qui va me permettre de me placer et de prendre, de lui piquer sa part de marché. C'est comme ça que ça marche.
C'est la façon de voir du producteur. Moi, consommateur, je réagis différemment. D'abord, quand j'étais jeune, j'avais 3 pantalons. Un grisâtre, un verdouillard et un marronâtre.
Et aujourd'hui, montrez-nous.
Aujourd'hui, j'ai un vert pomme, un vert prairie, un vert émeraude, un vert forêt, etc. etc.
Il y a un marché.
Il y a un marché qui a été créé.
Ça prouve que ça fonctionne.
Il y a un marché qui a été créé. C'est-à-dire, oui. C'est plus le marché du couvre-cul, c'est le marché du pantalon.
Oui.
Hein ? Ça a été créé. Ça a été créé.
C'est avec l'université du tous les savoirs.
Par ailleurs,
tout.
Par ailleurs, ma question. Enfin, si vous voulez, je prends un autre exemple. Hein. Le briquet, c'est un truc qui ne marche jamais. Il manque toujours quelque chose, du gaz, une pierre ou Dieu sait quoi. Les allumettes, ça fonctionne nettement mieux.
Eh bien, gardez le marché.
Le marché du briquet, c'est un marché qui a été fabriqué de toutes pièces.
Si vous voulez.
De toutes pièces. Le marché du pantalon, il a été fabriqué de toutes pièces. Mais ce que je voulais dire, tel qu'on en parle, on parle à nouveau du point de vue du producteur, pas du point de vue du consommateur. Le consommateur, je veux dire par là, a un pouvoir qui pèse sur le producteur. Il n'y a pas que le pouvoir qui pèse sur le consommateur. Il y a aussi un pouvoir qui vient du produit du consommateur. Et c'est ce qui a déterminé IKEA à faire sa charte, c'est ce qui a déterminé Nike à éliminer des sous-traitants.
Vous posez plus rapidement votre question, s'il vous plaît, maintenant.
Je la précise simplement.
On est d'accord.
Merci.
Non, mais je suis d'accord.
Non.
Bonjour, monsieur.
Non, mais attendez, madame, vous permettez ? Monsieur, allez-y, s'il vous plaît, posez une question. La dernière question. Allez-y, monsieur.
Bonjour. Alors, c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses dans votre exposé. Enfin, ça a éclairci un certain nombre de choses. C'était assez synthétique. Mais il y a une chose, j'ai ressenti un certain malaise pendant tout le long de l'exposé. J'ai cru, à travers votre définition du marché, de l'histoire du marché, etc., que vous donniez la vision de ce que c'était l'homme ou l'humanité. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en disant que l'homme avait besoin. Vous voulez tout plus vite, moins cher, etc. Enfin, un certain nombre d'autres, puis le côté guerre, etc. Et donc, pour moi, je n'ai pas vu la dimension culture qui pourrait être peut-être une dimension, justement, qui pourrait réguler ça. Enfin, bon, voilà.
Oui, mais je suis très sensible à votre remarque, monsieur. C'est pour ça que j'ai commencé le propos n'étant pas philosophe. Et c'est une chose qui me manque beaucoup, et plus j'avance dans l'économie, plus je m'aperçois que c'est quelque chose qui est une déficience profonde. Je suis d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve regrettable que l'on attaque l'enseignement de la philosophie en France aujourd'hui. Ça, c'est une petite parenthèse, enfin, du moins. Et donc, je crois très sincèrement que si on veut avoir une analyse économique, quelque chose qui soit fondé et qui... Nous devons nous interroger, nous, surtout nous, les intellectuels, qui n'avons pas du tout, comme personne nous demande de changer les choses, enfin, du moins, directement, en tout cas, ça n'a pas grande importance, de les gérer. Eh bien, nous devrions nous abstraindre, puisque nous avons ce temps qui nous est donné par la société, de réfléchir plus sur les fondements même de ce qui fait notre société et l'homme. Donc, le malaise que vous avez ressenti, c'est-à-dire, bon, je crois, très franchement, par exemple, les économistes libéraux disent, bon, chacun recherche son propre intérêt. Bon, chacun recherche son propre intérêt. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? C'est pour ça que j'ai fait cette petite référence à Clovis quelque part, et Clovis dit, alors lui, il se pose d'une manière tout à fait différente, puisqu'il parle de la rivalité entre les États, n'est-ce pas ? Donc, c'est tout à fait différent. Mais, quelque part, cette notion de rivalité permanente entre les hommes, est-ce que c'est vrai ? Je crois que les ethnologues, les anthropologues, les philosophes nous, les économistes, nous devrions nous inspirer de beaucoup de leurs réflexions, parce que c'est quelque chose quand même, ça part de là malgré tout. Adam Smith, il part de là. Chacun recherche son propre intérêt, et une main invisible arrive, par le prix d'équilibre, etc., arrive à réguler tout ça. Ok. L'autre, Karl Marx, va dire, non, la lutte de classe, l'histoire se résume à la lutte de classe. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que l'histoire prouve ça ? Est-ce qu'il y a... Bon, après, vous avez une notion de... Vous parlez de culture. Bon, bah, c'est une question sur laquelle je suis parfaitement ignorant, n'est-ce pas ? Je ne connais rien de ces questions, sauf de manière amateur, comme tout le monde. Donc, l'économie devrait effectivement se nourrir de tout cela. Et ce que vous avez ressenti à travers mon exposé, j'en suis plutôt content, parce que c'est une recherche personnelle. Et je me suis dit, bah, puisque je viens ici, que j'ai 50 minutes, je vais en profiter pour la donner.
Jean-Louis Godot, je vous remercie.